Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous êtes les bienvenus sur RTL. Bonsoir à tous et bonsoir Thomas.
Bonsoir Sidonie. Salut les curieux. Ce soir au programme, l'histoire d'un visionnaire, un homme qui a changé nos vies avec ses produits, ordinateurs, smartphones, tablettes, mais qui était Steve Jobs, le fondateur d'Apple, un génie ou un tyran? On vous raconte l'histoire d'un succès planétaire. Et puis nous sommes curieux de savoir comment le tatouage s'est démocratisé, réservé aux marins et aux bikers. Il s'affiche maintenant sur la peau d'un Français sur 10. Le maître du tatouage sera notre invité. Il nous dira si c'est dangereux, si c'est douloureux, si c'est durable. Et si on peut se faire tatouer sur toutes, j'ai bien dit, toutes les parties du corps.
La Poste! Mais alors ils veulent privatiser, mais personne n'achètera, même pas eux!
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être.
Rien que la pub de la Poste.
Bougez avec la Poste.
T'as qu'à écrire cette pub, ils sont jamais allés à la Poste, hein.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Renan Luce qui chante la lettre et puis Danny Boone qui se moque de la Poste. Et pourtant, c'est l'une des entreprises préférées des Français avec ses 90 000 facteurs qu'on a tous attendus au coin du chemin. Une petite lettre d'un amoureux. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on craint plus les factures. Mais enfin...
Ça sent le souvenir personnel, ça.
Oui, je mets un petit peu de moi dans cette émission, Thomas, comme vous.
Oui.
Nous vous allons parler de la Poste. Comment est né ce service de la correspondance? La Poste a une histoire absolument fabuleuse qu'on va vous dévoiler maintenant avec notre invité, les journalistes et spécialistes de l'histoire de La Poste. C'est David Reynal, bonsoir.
Bonsoir Sidonie,
bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tout le monde.
La Poste, est-ce qu'on peut dire qu'elle naît à peu près au 15e siècle avec la création de ces fameux relais de poste?
Alors effectivement, la Poste naît, on va dire, sous Louis XI en 1477. Le roi qui, d'une certaine façon, vient de sortir de la guerre de Cent Ans, il y a seulement 10 ans qu'on est sorti de la guerre de Cent Ans, décide d'unifier un petit peu plus son royaume et se dit qu'il faut des messagers, il faut des, comment dire, des messagers, des chevaucheurs qui vont donc amener son courrier. Et c'est d'abord le courrier royal qui est acheminé par ce moyen-là.
Donc les chevaucheurs de l'écurie du roi sont finalement l'ancêtre de notre facteur.
Exactement, donc c'est la poste à cheval avec le corollaire qui se met assez rapidement en place, les relais.
Alors les maîtres des postes travaillent en collaboration avec ce qu'on appelle un postillon. Racontez-nous comment ça fonctionne et qui est ce personnage?
Alors le postillon, effectivement, c'est le personnage emblématique de la poste à cheval. C'est quelqu'un qui a des bottes, de 7 lieues, bien sûr.
C'est de là que vient l'expression?
Donc c'est de là que vient l'expression. C'est comme ça que Perrault s'est inspiré.
Charles Perrault
s'est inspiré du postillon pour conter les aventures du petit Poucet. Donc ce postier avait des bottes extrêmement rigides, donc accrochées à ses étriers. Il achemine à cheval le courrier. Et donc, ses bottes sont tellement rigides qu'elles peuvent supporter le poids d'un cheval. Donc, s'il tombe, eh bien, il peut éventuellement ne pas avoir les jambes broyées, puisque ses bottes sont assez rigides pour supporter le poids d'un cheval. Et donc, il est obligé de grimper. On est obligé de le mettre sur son cheval. Il ne peut pas retirer ses bottes. Il ne peut pas marcher avec. C'est vraiment pour le caler.
Et 7 lieues, c'est parce que chaque relais de poste était séparé de 7 lieues, c'est ça?
Exactement. Donc, c'est à peu près 28 kilomètres.
Et il y a une autre expression aussi qui vient de cette époque, plus ou moins, en fait, des relais, de l'histoire de la poste et donc des relais de poste. C'est l'affaire est dans le sac. On l'emploie assez souvent encore aujourd'hui. Ça vient de quoi?
Alors, l'affaire est dans le sac, c'est aussi donc les postiers qui étaient chargés d'aller dans les tribunaux pour aller chercher donc l'instruction du juge, donc les dossiers d'instruction du juge. Et une fois que ce dossier d'instruction était dans le sac, on le scellait. Et donc l'affaire était dans le sac, on ne pouvait plus y toucher, on ne pouvait plus instruire.
C'est une belle
histoire.
Ouais. Je connaissais pas l'origine de l'expression. Qui utilise la poste? Tout le monde très vite ou c'est réservé à une partie de la population?
Alors au départ, c'est réservé aux lettrés. à ceux qui savent lire et qui peuvent évidemment transmettre des écrits. C'est pour ça que Madame de Sévigné, d'une certaine manière, est très proche de ses postiers, est très proche de ses postillons, parce que grâce à eux...
Épistolière du XVIIe siècle.
Exactement, donc elle écrit à sa fille, et elle écrit toute une série, je dirais, de lettres à sa fille. Et c'est vrai que elle est très, comment dire, très proche de ses postiers, et elle doit vraiment, comme elle sait que leur tournée dure souvent 28 kilomètres, fait souvent 28 kilomètres, voire quelquefois plus, eh bien, il faut les choyer.
Qui payait?
Alors,
il y avait déjà des timbres à l'époque, au XVIIe siècle. Comment
non,
ça fonctionne?
Non, il n'y avait pas de timbre. Le timbre arrive en 1849, et c'est celui qui écrit la lettre qui paye.
Celui alors, qui paye écrit qui ou celui qui reçoit?
C'est celui qui reçoit
d'accord.
la lettre.
Et il paye le postier directement?
Il paye le postier, effectivement. C'est celui qui reçoit la lettre qui paye.
Et combien il fallait de temps pour acheminer une lettre, par exemple, du nord de la France au sud de la France?
Alors, ça pouvait durer une dizaine de jours.
Fallait s'armer de patience.
Donc, effectivement, fallait s'armer de patience.
Et le tarif dépendait aussi du lieu, c'est-à-dire que si on avait effectivement à traverser les 1000 kilomètres de la France, ça coûtait plus cher, oui, forcément.
Alors effectivement, ça dépendait du lieu, ça dépendait du poids de la lettre, et c'est quelque chose évidemment qui va changer avec l'arrivée du timbre en 1849, où effectivement le tarif sera unique pour tous.
Mais du coup, c'était un métier dangereux, le métier de postier, puisqu'ils sont payés, donc ils ont de l'argent sur eux en permanence.
Alors effectivement, c'est un métier très dangereux. Il y aura l'affaire du courrier de Lyon, donc au XVIIIe siècle, où effectivement, donc un courrier se fait détrousser. C'est là où on se dit qu'il va falloir inventer, je dirais, le mandat pour éviter qu'il y ait trop de liquidités qui circulent. Donc effectivement, c'était un métier dangereux, et c'est pour ça que quelquefois, on confiait ce métier à des anciens militaires, donc qui savait monter à cheval et qui savait éventuellement se défendre.
À la Révolution, tout change, c'est ça? Les maîtres de poste perdent leurs privilèges parce qu'en fait, ils étaient en quelque sorte défiscalisés, on dirait, aujourd'hui. Et il y a des directeurs de poste. C'est à ce moment-là que la poste naît vraiment telle qu'on la connaît?
D'une certaine façon, c'est vrai que le privilège, je dirais, donné par le roi de maître de poste disparaît. Cela devient un véritable service public. Et à ce titre, effectivement, on commence à penser au mandat de poste, et on organise les bureaux. Et on organise surtout les facteurs, c'est-à-dire qu'il y a le facteur des villes et le facteur des champs.
Qui n'a pas le même job, mais on en parlera dans quelques instants.
Exactement.
Vous publiez Histoire de la Poste aux éditions Ouest France. C'est un très beau livre illustré avec notamment des facsimilés, vous savez, ces reproductions des premiers timbres, par exemple, des premières cartes postales. On va découvrir d'ailleurs quand et comment ces objets du quotidien sont nés. À tout de suite sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Et ce soir, on vous raconte l'histoire de la Poste avec David Reynal, spécialiste de l'histoire de la Poste. On se demandait quand apparaît tout simplement le premier timbre.
Alors, le premier timbre apparaît en 1849. Il s'inspire, je dirais, du Penny Black, donc anglais, qui lui est apparu en 1840.
Et c'était le premier pays, pardon, l'Angleterre.
Oui, c'était le premier pays à adopter le timbre. Mmh. Et comme souvent, ils ont été assez précurseurs, je dirais, dans les différents services aux clients. Mmh. Et c'est vrai que bon, ça va être une révolution, puisqu'effectivement, là, c'est bien l'expéditeur qui paye en fonction, je dirais, du poids de sa lettre et non plus celui qui la reçoit.
Ça semble plus juste pour les Français ou c'est un peu bizarre, c'est pas très accepté au début?
Bah, ça semble plus juste dans la mesure où on en profite pour un petit peu réduire les tarifs, je dirais, des envois. Et puis surtout, c'est plus juste puisque que l'on soit à Alger, que l'on soit à Paris, c'est le même tarif. C'est-à-dire, vous envoyez une lettre de Paris à Rambouillet, bah, ce sera le même tarif que d'envoyer une lettre de Paris à Ajaccio.
Quel est le premier personnage que l'on voit sur ce premier timbre français?
Il ressemble à quoi, ce timbre?
Alors, il est en facsimilé dans mon livre. Hein, donc, c'est la déesse Cérès, hein, c'est la déesse des moissons. Donc, c'est une très belle femme. Hein, dès le départ, on veut, je dirais, attirer les clients, attirer les citoyens.
Il y aura des philatélistes tout de suite ou pas? Parce qu'il n'y avait qu'un modèle de timbre, c'est ça?
Alors, la philatélie commence à peu près en 1860. Les philatélistes se donne rendez-vous au Jardin des Tuileries et ils commencent à s'échanger les premiers timbres. Ça commence assez tôt, en réalité.
D'ailleurs, il y a des timbres collecteurs que vous reproduisez dans votre livre sur l'histoire de la Poste, David Reynal. C'est une tablette de timbres, en fait, qui ont été imprimées tête bêche, c'est ça? Et ça, c'est ces collecteurs.
Voilà, exactement. Il y a une erreur dans l'impression du CRS rouge. Et effectivement, évidemment, cette plaque de timbre est extrêmement prisée.
Quand est-ce que le timbre devient Marianne?
Alors, le timbre devient Marianne avec, je crois, c'est Pierre Gandon, donc après juste après la Seconde Guerre mondiale, et c'est le général de Gaulle qui demande en urgence, alors que la guerre est à peine finie, demande en urgence à Pierre Gandon de faire une Marianne. S'inspirer de sa femme.
D'accord.
Il va s'inspirer de sa femme d'ailleurs.
Ah, il va portraitiser son épouse.
Exactement. Mmh. Il va s'inspirer de sa femme et il va lui donner un regard un peu plus dur puisque nous sommes dans des périodes difficiles.
Mais c'est intéressant, Thomas, quand même, parce qu'on représente une femme sur un timbre. En fait, c'est pour plaire aux hommes, c'est ça? Pour donner envie d'acheter, au début?
Alors ça, je n'en sais rien. je sais seulement qu'effectivement, le général de Gaulle avait dit, vous avez quelques concurrents, vous avez quelques heures pour me faire une proposition. Et évidemment, la Marianne s'est imposée pour la restauration. C'est surtout ça, la restauration de la République.
Ouais. Alors là on raconte la période où le timbre apparaît, donc les années 1849, c'est ce que vous disiez. Oui. Donc ça commence à ressembler au courrier qu'on envoie, et l'enveloppe. Il y a déjà une enveloppe pour glisser le courrier ou pas?
Alors l'enveloppe, non, elle existait, le principe existait, et donc effectivement, il y a toujours eu des enveloppes.
Qu'on fabriquait soi-même peut-être.
Qu'on fabriquait soi-même, mais
oui, avec le tampon de cire, etc. Mais on n'était pas encore dans une fabrication industrielle.
Non. Après, effectivement, avec la révolution industrielle, les papetiers vont commencer, je dirais, à s'intéresser à l'enveloppe. Mais je veux dire, l'enveloppe a toujours existé. Sous une forme ou une autre. La confidentialité. Oui. Des correspondances.
Moi, je croyais que c'était la lettre qui était pliée en deux ou en trois et sur laquelle on mettait la cire et le tampon.
Le cachet, oui, il y avait évidemment, primitivement, mm-hmm. il y avait cette façon de faire. Et puis, dès le 19e siècle, là, je crois que c'est plus les Allemands qui ont, démocratisé, je dirais, l'enveloppe. Et c'est devenu un usage courant. Mais je tiens à préciser que sur le premier timbre, le CRS, il n'était pas dentelé. Il n'y avait pas de dents. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'en mettant des dents au timbre, c'était plus facile pour les détacher.
D'accord.
Donc c'est une astuce qui a été trouvée plus tard.
Mmh. Et est-ce que la façon de poser ce timbre sur l'enveloppe a un sens? Le lieu sur lequel on colle.
Oui, il y a la fameuse... ça c'est un petit peu plus tard, mais il y a la fameuse, signification des timbres, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous le mettez de biais, c'est que vous êtes intéressé par une personne.
Ah, ça m'inquiète parce que quand je poste mes impôts, parfois je mets le timbre tellement vite que je le mets de travers.
On ne sait jamais. Peut-être que votre inspecteur des impôts va sonner chez vous bientôt en pensant que c'est un appel du pied.
Il y a un code du timbre, effectivement.
C'est passionnant parce que ça, par exemple, moi je ne le savais pas du tout. Donc si je mets ce timbre légèrement penché, ça veut dire que je fais un appel du pied au destinataire, c'est ça?
Voilà, on fait un appel du papier, peut-être pas du pied,
oui,
du
c'est
papier,
vrai.
À la personne de son choix. Et puis, alors, si on met deux timbres tête bêche, ça veut dire qu'il va y avoir une nuit, une folle nuit d'amour.
Une nuit torride qui se prépare.
C'est génial. Très bien. Et quand apparaît la première carte postale qu'on s'envoie avec, un paysage maritime, par exemple, le recto, le verso,
ça,
on peut écrire un petit mot.
Breton qui parle. Voilà.
Alors, au début, il n'y a pas d'illustration sur les cartes postales. Ce sont des cartes en carton, et là aussi ça vient de d'Allemagne, donc ce sont les Allemands qui les premiers ont lancé la carte postale dans les années 1860, et puis très vite ça va faire des émules, mais au départ il n'y a pas d'illustration. Les illustrations vont commencer pour la France à partir de 1889 avec l'exposition universelle et la construction de la Tour Eiffel. Donc on va vouloir illustrer par la Tour Eiffel les cartes postales.
Mais au début, on ne peut pas écrire, au dos de la carte postale, c'est ça? On n'a pas la place ou on n'a pas le droit?
Oui, voilà, s'il y a des, il y a des mentions légales, on ne doit pas écrire au dos de la carte postale, on écrit sur la carte postale l'adresse.
Sur donc, le dessin, sur la, l'illustration.
Exactement, donc il y a un emplacement hein, pour cela, et effectivement, petit à petit, les cartes postales vont évoluer. On va donner, parce qu'on a peur un petit peu que le courrier, je dirais, périclite, que les envois classiques périclite, donc on va donner aussi, on va privatiser la production des cartte postale, donc il va y avoir aussi des gens qui vont produire des cartes postales et ça va être
de création du coup et d'imagination.
Un succès énorme, il va y avoir jusqu'à 9 millions de cartes postales par an au début du 20e siècle.
Et là aussi ça deviendra d'une certaine façon un business. La couverture de votre livre, David Reynal, c'est une boîte aux lettres tout simplement, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je la montre pour ceux qui nous écoutent sur RTL.fr. Elle ressemble à quoi la première boîte aux lettres de la Poste? Pas du tout à ça?
Alors c'est La boîte aux lettres que j'ai
c'est pas une boîte aux lettres moderne. D'accord.
Les boîtes aux lettres modernes, ce sont ce qu'on appelle les balles mode. Là, c'est plus une boîte aux lettres, moujotte ou de joie. Donc, ce sont des boîtes aux lettres des années 60.
D'accord. Ouais.
Donc, parce que bon, s'il y a un côté nostalgique, les premières boîtes aux lettres, ce sont des boîtes aux lettres en bois avec les heures de lever. Et donc elles étaient, certaines sont conservées, mais évidemment elles disparaissaient assez rapidement.
Donc c'est le facteur qui changeait, c'est ça à chaque fois pour dire, je vais venir lever le courrier. Exactement. Dans une heure, dans deux heures.
Exactement.
La Poste et les facteurs ont dû s'adapter en temps de guerre aussi. L'imagination, l'ingéniosité et l'engagement, vous verrez, sont au rendez-vous. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Pour concurrencer la Poste, je me suis déguisé en facteur et je me suis mis à coucher avec ma femme.
La curiosité est un vilain défaut.
Tous les matins, je lui remplissais sa boîte aux lettres.
RTL.
Jusqu'à 22h.
Le bruit a couru que j'étais plutôt un bon facteur. Une semaine plus tard, je remplissais toutes les boîtes aux lettres de l'immeuble. Certaines ont commencé à demander 2 levées par jour.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Sketch signé Olivier de Benoît, c'est très très drôle, encore plus sur
drôle
scène.
Drôle de conception
c'est frais aussi, on peut le dire. On vous raconte ce soir l'histoire de la Poste avec David Reynal, auteur de ce livre publié aux éditions Ouest-France. Bah du coup, ça m'inspire une question. C'est un mythe ou une réalité le facteur qui a la jambe légère, on va dire ça comme ça, qui profite de ses tournées?
Alors moi je pense que ce sont plutôt les clients qui quelquefois sollicitent le facteur. C'est peut-être le prestige de l'uniforme.
Ah, quand même.
Et je tiens aussi à préciser que la profession maintenant est très féminisée, donc il y a c'est la parité hein, quasiment, et même pour les facteurs qui ont longtemps été plutôt des hommes, donc ce qui fait qu'effectivement une factrice aussi peut susciter
pas mal de fantasmes. Oui.
Exactement.
Il y a les pompiers et les facteurs, les infirmières aussi. On fera peut-être une émission sur les infirmières. Tiens, allez, on s'intéresse à l'évolution de ce métier et de la Poste et de ce service public. C'est passionnant parce qu'on va voir que les guerres ont obligé les postiers, les facteurs à s'adapter. Par exemple, la guerre de 1870. Paris est isolé, encerclé, qu'est-ce qui se passe?
Alors Paris est encerclé par les Prussiens et donc il faut que le courrier passe et il passe par les ballons. Donc c'est les ballons montés, ce qu'on appelait les ballons montés.
Comme donc, des montgolfières.
Voilà, c'est des montgolfières, en toile de coton vernis pour que ce soit plus rigide. Et donc effectivement, il y a une centaine de ballons qui vont partir de Paris pour donner des informations et des précisions aussi sur les positions ennemies.
Et c'était à usage militaire essentiellement.
C'était à usage militaire. Il y a aussi de la correspondance, je dirais privée, qui passe évidemment. Et puis par exemple, il y a Léon Gambetta, qui l'homme politique, qui part en ballon et qui a un accident, je dirais, de ballon. Des villageois, ils se retrouvent la tête à l'envers, etc. Des villageois arrivent à à le sauver. Et bon, il devait aller à Tours, il se retrouve à Amiens, mais il est passé de l'autre côté. Il est passé de l'autre côté des lignes, donc il peut quand même transmettre des informations.
Et ça, c'était un ballon de la Poste qui lui avait permis de passer de l'autre côté. Pendant la Première Guerre mondiale, la Poste et le courrier jouent un rôle important, j'imagine, psychologique auprès des soldats.
Alors le vague-mestre, hein, ce qu'on appelle le vague-mestre, effectivement, c'est la personne qui est attendue. Donc les poilus bénéficient du courrier gratuit. Donc ils vont en user, ils vont en abuser parce qu'ils ont besoin d'envoyer des lettres et puis de recevoir des lettres aussi. Donc c'est vraiment la personne, je dirais, centrale de la vie de la tranchée. Et donc le postier, évidemment, le vague-mestre, la poste aux armées, prend une ampleur et une importance très très grande. Et bon, la seule chose, c'est que certains, ce qu'il faut savoir, c'est que certains courriers des poilus étaient des soldats étaient lus.
Censurés ?
Alors censurés, non, il y a plus le cabinet noir comme on le connaissait auparavant, mais certains courriers sont lus pour éviter qu'il y ait trop de propos défaitistes. Ou peut-être trop de détails sur ce que les gens vivaient.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il est envoyé quand même aux familles.
Il est envoyé, bien sûr. Il est juste, comment dire, contrôlé.
Alors, mais c'est et donc, on va voir le soldat pour lui dire. Attention, ta prochaine lettre soit un peu moins défaitiste.
Il le sait, mais effectivement, c'est aléatoire, c'est un contrôle aléatoire. Mm-hmm. Mais quand vraiment la lettre est trop défaitiste, on lui en fait part.
Pendant l'occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Poste va créer des cartes postales interzones. C'est quoi et ça sert à quoi?
Les cartes postales interzones, c'était effectivement pour entre les deux zones, zone occupée et zone libre. Donc c'était des cartes postales qui permettaient de mettre un message bien, comment dire, identifié. Là aussi, il ne s'agit pas, si vous voulez, de dire trop de choses. On a une information à donner, donc il y a des cases qui seront pré-remplies où on peut écrire le strict message que l'on doit écrire. Et donc on ne va pas au-delà.
Il y aura beaucoup de résistants parmi les facteurs, parce que c'est un métier forcément qui permet de bouger légalement et donc qui peut intéresser la résistance.
Donc un petit peu comme pour l'ensemble des Français, il y aura environ 10% de postiers qui seront résistants. La seule chose, c'est qu'effectivement ils ont la possibilité de faire passer du courrier par les trains, par les différents moyens de transport. C'est vrai que quelquefois on regardait aussi derrière les timbres, parce qu'il y avait des messages qui étaient écrits derrière les timbres.
C'est pour ça qu'ils sont pré-imprimés, c'est ça, sur les cartes interzones?
Voilà, sur les cartes interzones, ils sont pré-imprimés pour éviter qu'on mette des messages, à destination des résistants derrière les timbres. Donc, il faut dire aussi que les postiers, comme tous les citoyens aussi, ont payé un tribut assez important, aux deux conflits mondiaux. Ils sont actifs et en plus, ils en ont les moyens, un petit peu les cheminots d'ailleurs.
L'un des défis de la Poste, c'est de réduire évidemment le temps d'acheminement du courrier. C'est une course contre la montre et on vous la raconte tout de suite sur RTL.
Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Ça, c'est moi.
Thomas Hugues.
Et ça, c'est ma petite sœur que je dois garder.
Sidonie Bonnec.
Et lui, c'est Splash, son immonde peluche.
La curiosité est un vilain défaut.
Ça, c'est ma tête quand ma postière m'apprend qu'un nouveau Splash peut être livré très rapidement.
Jusqu'à 22h.
Plus proche, plus performante. Une nouvelle idée de la Poste.
Vous aimez bien cette publicité de la Poste, David Reynal?
Ah oui, moi je l'aime bien, oui, parce qu'effectivement, on montre un petit peu la...
Sans Thomas Hugues et Sidonie Bonnec, quand même.
Avec,
là, on l'a retravaillé.
C'est encore mieux.
Oui, il a mis à laver mon doudou, et j'ai plus de doudou, donc il a dû m'en recommander.
Pour ceux qui seraient surpris, ce n'est pas la version originale. Hein, quand même.
Mais si, mais arrêtez, on faisait de la pub avant, j'ai un doudou.
Non, mais c'est vrai que la Poste, c'est la proximité, on le voit, donc effectivement, plus on est proche des gens, et pourquoi pas de Sidonie, mieux c'est. Hein,
ça, c'est vrai, ça, plus on est proche de Sidonie, mieux c'est.
Oh, bravo Thomas, fallu attendre 2 mois.
Allez, on continue. Donc le premier vol postal, tiens, ça nous passionne. C'est arrivé quand?
Alors, je voulais juste revenir un petit peu sur la Poste durant la guerre.
Oui.
Il faut dire aussi, parce que ça c'est important, que les postiers quelquefois prévenaient, en tout cas ceux qui étaient impliqués dans la résistance, ils prévenaient des rafles. Ça aussi c'est important parce qu'ils étaient quelquefois au courant par les documents qu'ils transportaient qu'il allait avoir des rafles. Donc ça c'est une des actions
de résistance qu'on évoquait rapidement tout à l'heure,
qui était couramment pratiquée. Alors pour l'aéropostale, il y a un premier vol, donc effectivement c'est Henri Péquet qui fait un vol postal en Inde. Alors là, il est en Inde avec son avion sommaire, donc il réussit à franchir le Gange en transportant 15 kilos de courrier.
On est à quelle époque?
Alors là, nous sommes en 1911. Et puis en 1912, c'est le commandant Nico qui achemine 50 kilos de dépêches de Nancy à Lunéville.
Alors ça va petit vol.
Et petit vol, 27 kilomètres. Et donc un peu plus tard, en 1913, il y a un vol entre Villacoublay et Pauillac. Donc là, 50 kilos de courrier, Villacoublay-Pauillac, 400 kilomètres. Donc ça...
Ça augmente petit à petit.
Mais dans cette histoire de l'aéropostale, on va surtout évidemment retenir trois héros, Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet. Pourquoi eux ?
Bah parce que c'était les pilotes, c'était déjà des vedettes. Hein. Ils s'étaient illustrés durant la Première Guerre mondiale. Donc à l'issue de la Première Guerre mondiale, la TCOR se dit qu'est-ce qu'on fait des avions qui ont combattu ? On a quand même une flotte qui a été construite pour le conflit. Il fait appel effectivement aux plus grands pilotes et il organise la première compagnie postale aérienne.
Et ça évidemment, ça change complètement la face de la correspondance et du travail de la Poste en France.
C'est un petit peu aventureux, expérimental. Effectivement, il y a le fameux épisode de Guillaumet, donc qui se retrouve en dessous de son avion dans la cordillère des Andes et qui réussit en passant en 5 jours et 4 nuits, en passant 3 cols dans la cordillère des Andes, à acheminer son courrier et il est retrouvé complètement exténué par des paysans andins. Donc ça, c'est la légende. Et donc à la fin, le courrier il a été mis retard dû pour cause de service.
Donc, c'est tout.
Oui, retard.
C'était sobre.
Dû pour cause de service. Donc.
Est-ce qu'il y a une concurrence entre les grands pays d'Europe à l'époque pour être justement les premiers à, avec un avion postal, à rejoindre deux villes ou à passer la cordillère des Andes, etc. Ou est-ce que c'était simplement une idée française avec l'aéropostale ?
Alors, la France est illustrée, effectivement, assez fortement. Donc, dans l'aéropostale, bon, évidemment, les Américains aussi ont utilisé l'avion assez rapidement. Par contre, ils n'avaient pas une institution, je dirais, postale aussi puissante que la nôtre, une administration postale aussi puissante que la nôtre. Donc même si la TCOR, d'une certaine manière, était un prestataire, mais il avait quand même derrière lui les meilleurs pilotes et il en a profité. Hein, donc,
mais ils étaient payés par qui ?
Saint-Exupéry.
Par la TCOR ou ils étaient payés par la Poste ?
Ils n'étaient pas fonctionnaires. Mermoz n'était pas un fonctionnaire. Et donc Saint-Exupéry non plus. Non, ils étaient payés par la compagnie, la TCOR.
Ça aurait été sympa, aventurier fonctionnaire. Je trouve que l'idée était jolie.
On a vu que la Poste donc n'hésite pas à s'envoyer en l'air avec les montgolfières en 1870 ou l'avion évidemment.
Ou mais avec les timbres aussi... tête bêche aussi, ce qu'on a compris tout à l'heure.
Le langage du timbre.
Mais dans l'histoire de la Poste, les postiers ont utilisé 1000 moyens de transport. Vous en avez répertorié plusieurs qu'on découvre en photo dans Il était une fois la Poste que vous publiez aux éditions Ouest France, David Reynal. Donnez-nous des exemples. Je sais qu'il y a les échasses par exemple dans le sud-ouest.
Oui, alors évidemment, il y a des moyens de transport régionaux, les échasses, les traîneaux à chiens aussi, des petits chiens
comme Nicolas Vanier avec 10 chiens.
Attendez, je voudrais comprendre. C'est-à-dire que le chien était dressé, votre caniche, il savait où il fallait aller.
Voilà, le chien tire le postier. Donc,
quand même, il y a quand même un postier. Ah bon.
Il y a un facteur sur une petite carriole et le chien tire. Alors ça, c'est vraiment l'aspect cocasse.
Ouais.
Et les chats, ça marchait pas, non ?
Les chats, non.
Non.
Ou alors, il faut vraiment des chats sauvages.
Oui. Vraiment sauvages.
Des lynx, presque. Mais non, en réalité, plus sérieusement, à l'heure actuelle, par exemple, sur les rives de l'Oyapock, donc en Guyane, eh bien, on achemine le courrier en pirogue à moteur. Donc, on va au fin fond, je dirais, de la forêt amazonienne pour acheminer le courrier.
Est-ce que la Poste a essayé de créer des véhicules un peu particuliers pour acheminer son courrier plus vite ?
Alors, il y a eu des expérimentations comme la fusée postale en 1960. Donc, effectivement, il y avait une idée d'acheminer à la vitesse du son le courrier d'un continent à l'autre. Et pour des raisons, moi, je dis que c'était un petit peu un projet stratosphérique. Et donc, pour des raisons, effectivement, de coût, on a renoncé à ce projet.
Puis Internet maintenant.
Oui. Alors justement, on écrit. Alors, j'allais dire, on écrit moins qu'avant. Oui et non. C'est-à-dire qu'on écrit beaucoup, mais sous forme numérique, avec des textos, des tweets, des mails, et on envoie moins de courriers. Est-ce que ça met en danger la Poste, ça ?
Bien sûr, ça met pas en danger la Poste en tant que telle, mais l'activité courrier doit se renouveler. C'est bien pour ça d'ailleurs que le facteur joue la carte de la proximité, on appelle cela les services à la personne. Donc effectivement, le facteur va, pourquoi pas, relever le courrier, faire des photos pour des syndics, dans les immeubles, donner des médicaments à des personnes âgées. Donc toutes ces actions qui sont d'ailleurs, relayées par le smartphone qu'on appelle Facteo, qui permet aussi, d'aider le facteur, dans ses tâches quotidiennes. Donc il y a à la fois la numérisation, des échanges, et puis il y a toujours le rapport humain qui est très très fort.
Mmh. Il était une fois la Poste, c'est la très belle histoire que vous nous racontez, David Reynal, aux éditions Ouest France, des facsimilés, des cartes postales, il y a plein de choses à déplier dans ce très beau livre-objet. Merci infiniment.
Merci David Reynal. Sidonie, malheureusement, on est mercredi, il est 20h37, c'est l'heure de filer W9 pour enquête criminelle. Ciao.
Bonne fin de soirée.
À demain, on vous raconte dans
je
un
vous réécoute
instant.
En podcast demain, soyez bons.
Vous écoutez RTL.